blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Le 17 avril, le monde en transition devient Saint-Roch en transition. De 17h à 19h, vos animateurs préférés, Annie-Claude Veilleux et Tommy Bureau, seront en direct de la Barberie en compagnie de leurs invités pour discuter de transition écologique et sociale dans le quartier Saint-Roch. Venez nous rejoindre sur place et déguster la nouvelle bière La Résiliente Saint-Roch au bénéfice de l'organisme Verdir Saint-Roch. Mercredi 17 avril dès 17h à la Barberie, soyez-y.
Une invitation de l'Engrenage Saint-Roch.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du 5 avril 2024. Selon des chiffres obtenus par la Fédération du personnel de soutien scolaire, 37 428 membres de ces professions ont démissionné au cours des 5 dernières années, excluant les départs à la retraite. Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette vague de départs massifs, le manque de reconnaissance, les conditions de travail précaires, la surcharge de travail, le manque de ressources. La FPSS-CSQ se dit désireuse de travailler avec le ministre de l'Éducation afin de trouver des solutions durables à cette crise sans précédent. La Ville de Québec a dévoilé hier son plan de gestion des stationnements tarifés. Dès le 8 avril, les bornes de paiement actuelles ainsi que l'application Copilote seront remplacées par de nouvelles bornes et une nouvelle application Copilote Plus. Le nouveau système sera basé sur le numéro de plaque, ce qui permettra de déplacer le véhicule dans une autre zone payante sans avoir à payer de nouveau. Il sera également possible de garder en réserve les minutes non utilisées. Enfin, plusieurs modes de paiement, dont le paiement sans contact, seront rendus possibles par les nouvelles bornes. Les automobilistes devront néanmoins demeurer vigilants puisque les cases numérotées seront remplacées par des panneaux d'affichage indiquant les zones payantes. Du 8 au 28 avril, le stationnement dans les zones ordinairement payantes sera gratuit afin de permettre la mise en place du nouveau système. Retrouvez tous les détails sur le site Web de la Ville de Québec. Le gagnant de la finale régionale du concours Cégep en spectacle est un étudiant en arts, lettres et communication du Cégep Sainte-Foy, Joe Landry. Multi-instrumentiste, il a impressionné le public en passant d'un instrument à l'autre tout en interprétant des classiques de la chanson québécoise. Il remporte une bourse de 750 $ et prendra part à la grande finale qui aura lieu le 27 avril au Cégep de Rimouski. La Ville de Québec lance un appel d'intérêt aux propriétaires de bâtiments qui souhaiteraient accueillir une murale. Le bâtiment peut être résidentiel ou commercial et situé dans tous les arrondissements de Québec. Il ne doit pas être situé dans un site patrimonial. Le mur doit être visible pour les citoyens sans toutefois être en façade principale du bâtiment. Pour signifier votre intérêt, remplissez le formulaire disponible au ville.quebec.qc.ca/murale. Les collectifs Québec-Palestine et Syndicalistes pour la Palestine vous invitent à manifester votre solidarité le dimanche 7 avril à 13h devant l'Assemblée nationale du Québec. Les organisateurs veulent dénoncer les injustices et défendre les droits fondamentaux des Palestiniens. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bon vendredi à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. En matière de mode de vie, j'avais du moins cet avantage sur tous les gens qui sont obligés d'aller quérir leur divertissement à l'extérieur, dans le monde ou au théâtre, que ma vie elle-même était devenue mon divertissement et ne cessait jamais de se renouveler. C'était un spectacle sans fin, riche de scènes innombrables. Nous gagnions réellement notre vie si nous la régulions effectivement selon l'ultime et meilleure modalité que nous avons apprise. Nous ne serions jamais accablés par l'ennui. Suivez votre génie le plus attentivement possible. Il ne manquera pas de vous proposer une perspective nouvelle à chaque nouvelle heure. Les tâches ménagères étaient un passe-temps agréable. Quand mon sol était sale, je me levais tôt, sortais tous mes meubles dehors sur l'herbe, lit et matelas compris, aspergeais le sol d'eau, le saupoudrais de sable blanc pris sur la rive de l'étang, puis le frottais à l'aide d'un balai jusqu'à ce qu'il fût bien propre et bien blanc. Le temps que les autres villageois aient fini de prendre leur petit déjeuner, le sol du matin avait suffisamment séché mon plancher pour que je puisse de nouveau rentrer dans ma maison, m'interrompant à peine dans mes méditations. C'était plaisant de voir tous mes biens domestiques ainsi entreposés sur l'herbe, amassés comme un barda de gitan, et de voir ma table à trois pieds sur laquelle je lisais, sur laquelle je laissais mes livres, le stylo et l'encre qui s'y trouvaient, trônés parmi les pins et les carriers. Ces objets semblaient aussi heureux de prendre l'air et peu désireux de retourner à l'intérieur. J'éprouvais parfois la tentation de tendre un auvent au-dessus de tout ça et de prendre mes quartiers là, dehors. C'était une récompense en soi que de voir briller le soleil sur toutes ces choses et d'entendre le vent libre souffler sur elles. La plupart des objets familiers sont tellement plus intéressants à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un parois, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature.
Miroir des voyelles. profonde, bercée de légendes. Mes souvenirs et mon enfance nagent dans les étoiles. Limpide étang nourri de pluie, tu as 100 000 ans. Apprends-moi la vie.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, j'ai quelques lectures à vous présenter. On n'a pas d'invité aujourd'hui. Par contre, dans 3 semaines, dans 3 émissions, possible, on aura notre collaborateur habituel qui s'est absenté là, pendant quelques semaines, Jacques Sénécal, qui va venir nous parler du philosophe philosophe Épicure, qui est un peu le philosophe de la simplicité volontaire. Alors, c'est dans 3 semaines. Aujourd'hui, le sujet de l'heure, évidemment, c'est l'éclipse qui va avoir lieu lundi. Et on pense, en tout cas, je regardais la météo ce matin, puis on semblerait qu'on va avoir une journée parfaite pour l'éclipse, alors pour observer l'éclipse. Alors, c'est vraiment super. Il y avait encore des articles dans le Devoir sur ça aujourd'hui qui nous mettaient en garde, là, entre autres, de ne pas utiliser nos appareils photo pour photographier l'éclipse, que ça pourrait endommager l'appareil. Et aussi, c'est dangereux parce que même si on a des lunettes... Des lunettes pour regarder l'éclipse, photographier l'éclipse, c'est dangereux parce que ça concentre les rayons, ça peut brûler même la lunette tellement que ça peut rendre la chaleur importante. Donc, c'est ça, encore des précautions à prendre, mais autrement, si on a des lunettes là, qui sont... que vous pouvez tester. D'ailleurs, je vous en avais parlé la semaine dernière, il y avait un article dans Le Devoir qui disait comment tester nos lunettes pour savoir s'ils sont bien sécuritaires. On peut, avec les lunettes, observer l'éclipse. Dans aussi les autres lectures que j'ai faites cette semaine, il y a un nouveau livre qui circule ces temps-ci. Le titre, c'est « La déconsommation » de M. Marsan. Et c'est un livre qui parle de simplicité volontaire. disons que c'est curieux parce que j'ai écouté une entrevue de l'auteur puis qui disait on va plus loin que la simplicité volontaire. Je trouve pas, c'est que ça ressemble plus à ce qu'on comme une recette, comme des recettes un peu, qui est pas mauvais. Il y a beaucoup de très bonnes idées, très bonnes suggestions, mais la simplicité volontaire, c'est pas des recettes qu'on applique, c'est plutôt une philosophie, une façon de vivre. C'est pour ça que d'ailleurs, à l'émission ici, d'où il est question de simplicité volontaire, on parle beaucoup de philosophie. C'est une réflexion sur sa vie, sur ses valeurs. Puis, comme les philosophes dans l'Antiquité vivaient dans la simplicité, justement parce que pour eux, c'est important de vivre une vie intérieure riche, c'est lié à la philosophie, donc, la simplicité volontaire. Pas nécessairement des recettes, mais quand même intéressantes. Puis, il y avait aussi dans le soleil un article de Daniel Germain, « La simplicité volontaire, une idée démodée depuis 1985 ». C'est un peu comme une boutade là, qui fait, mais lui aussi, il trouve que, il n'y a rien de nouveau, on n'apprend rien. Mais il n'est pas qu'il dit que c'est pas pertinent, c'est la simplicité volontaire, mais il trouve qu'il n'apprend rien dans le livre. Mais comme je disais, c'est pas la simplicité volontaire, c'est pas des recettes, c'est plutôt un processus, c'est quelque chose des valeurs, une façon de voir la vie qui influence notre façon de vivre. Ça devient un mode de vie. Et c'est pas quelque chose qu'on dit, ben là, voici, j'ai atteint la simplicité volontaire. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on applique. Et qu'on applique aussi de façon équilibrée. Je vais en parler un peu tantôt. Là. J'ai une autre lecture là, que je vais vous parler là, après ma revue de presse. Dans le Devoir, il y avait un article dans le Devoir de mardi. Le climat change les zones de rusticité aussi. Pour mieux refléter la réalité du réchauffement climatique, Ressources naturelles Canada a entrepris de réviser la carte des zones de rusticité des plantes. Avec l'arrivée du printemps, la fièvre du jardinage gagne en intensité. Tout jardinier amateur qui espère obtenir du succès avec ses plates-bandes, son potager, ses arbres fruitiers a avantage à connaître la zone horticole dans laquelle il se trouve afin de s'assurer de planter des variétés adaptées à sa région. Mais ces données pourraient changer au cours des prochains mois car Ressources naturelles Canada travaille sur une nouvelle carte des zones de rusticité des plantes afin de mieux refléter la réalité climatique du réchauffement climatique. La réalité du réchauffement climatique. Alors, le changement climatique aussi affecte nos façons de jardiner. Dans notre cas, au Québec, ça peut avoir du positif parce que ça va faire peut-être permettre à des cultiver des plantes qui, auparavant, on n'est pas capable de cultiver. Ensuite de ça... Il y avait, dans le Devoir, toujours des articles sur Northvolt. Northvolt veut excaver des sols contaminés. Le ministère de l'Environnement s'en remet à l'entreprise pour juger de leur qualité. Alors, c'est vraiment complexe au niveau des règles environnementales avec ce projet-là. Chaque semaine, on voit une nouvelle chose... sortir dans le Devoir. Northvolt a demandé l'autorisation d'excaver des sols contaminés dans des milieux humides de son terrain afin de construire des bâtiments de l'usine. Le ministère de l'Environnement qui analyse présentement la demande et doit autoriser les travaux ignore toutefois les niveaux de contamination des sols et les volumes qui seront excavés. C'est l'entreprise qui est responsable du suivi de la qualité des sols. En tout cas, toujours à suivre avec Northvolt. Au point de vue environnemental. Dans le Devoir de jeudi, hier, les polluants éternels à la grandeur de la planète, des ours polaires aux eaux souterraines, rien n'échappe au PFAS, que je ne connais pas. C'est un contaminant qui qui existe depuis environ un siècle. Entre autres, là, on pense au teflon. C'est un contaminant qui résiste à l'eau. Alors, c'est un contaminant qui reste dans l'atmosphère, on dit pour toujours. On appelle ça des polluants éternels. Inventés depuis moins d'un siècle, les PFAS, ces molécules surnommées les polluants éternels, qu'une proposition de loi débattue jeudi en France veut restreindre, sont désormais détectés sur toute la planète, des neiges de l'Antarctique au foie des ours polaires ou aux eaux souterraines, et seule la partie immergée de l'iceberg est connue. Aucun écosystème n'échappe aux contaminations des substances, le nom c'est des polyfluoroalkylées, désigné par le sigle PFAS, résume pour l'AFP Yann Amino, chercheur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Depuis 6 ans, ce spécialiste de la contamination de l'environnement a examiné des sédiments des océans Indien et Pacifique, des foies de dauphins du golfe de Gascogne ou des prélèvements de parcs ostréicoles français. Je crois que je n'ai jamais vu un seul échantillon exempt de contaminants perfluorés, raconte-t-il. Ces molécules de synthèse, dont la plus connue a donné naissance au teflon des poêles, ont été développées après-guerre pour conférer aux emballages, peintures, revêtements une résistance exceptionnelle à l'eau ou à la chaleur. Mais voilà, ça fait un polluant qui devient éternel. C'est dans le Devoir de jeudi, hier. Enfin, dans ma revue de presse, dans le Devoir de mercredi, le Japon lance son nouveau baleinier. Ce navire-usine servira au dépeçage en mer des cétacés, chassés au large des côtes jusqu'en Antarctique. J'en reviens pas qu'on continue à chasser la baleine aujourd'hui. C'est incroyable. 5 ans après avoir quitté l'Organisation internationale chargée du maintien du moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine, le Japon vient d'inaugurer un nouveau navire-usine qui lui permettra de dépecer en mer les cétacés qui seront chassés au cours des prochaines années. C'est le seul navire du genre en activité dans le monde. Au moins, il y a ça. Ce navire de 112 mètres de longueur, baptisé Kange Maru, est le premier à avoir été construit en plus de 70 ans au Japon. Ce nouveau navire-usine a coûté un peu plus de 60 millions de dollars. Ce qu'on dit aussi, il ne faut pas oublier que les baleines ont un rôle important en lien avec les changements climatiques. Une étude publiée en 2019, par le Fonds monétaire international, avait déjà constaté que la protection des baleines dans les océans faisait partie d'une stratégie efficace de lutte contre la crise climatique. Des chercheurs norvégiens ont aussi publié l'an dernier une étude dont les conclusions vont en ce sens. Le rôle climatique des baleines découle du fait que ces animaux, à travers leur migration annuelle de plusieurs milliers de kilomètres, contribuent à disperser avec leurs excréments des substances comme le fer et l'azote qui participent directement à la croissance du phytoplancton. La présence des baleines et surtout la fertilisation qui en découle a donc un impact considérable sur la croissance du phytoplancton. Or, ce plancton végétal est l'origine d'au moins 50 % de tout l'oxygène présent dans notre atmosphère, en plus de capturer chaque année pas moins de 37 milliards de tonnes métriques de CO2, soit près de 40 % de tout le CO2 produit, selon les données du FMI. Alors voilà, c'est ma revue de presse qui est terminée. Alors on va prendre une petite pause musicale, puis au retour, là, je vous parle de deux textes que j'ai lus dernièrement.
Wow.
California Dreaming, le printemps s'en vient. On va le savoir, on va le voir lundi là, avec des journées très chaudes. C'est ça, je parlais tantôt du livre là, La déconsommation, qui est bien. Il y a beaucoup de bonnes idées là-dedans. Mais la simplicité volontaire, ce que je me rends compte, qu'il dit. Dans l'article de Daniel Germain, il dit une idée qui est surannée. C'est plutôt que c'est une idée qui fait son bout de chemin. Et on est tellement dans une société qui est le contraire de ça. La consommation domine les valeurs dans la société. Donc, évidemment, quand on parle de déconsommation, on est à l'encontre un peu du discours dominant dans notre société. Alors, ça prend du temps. Alors, on est loin de la réflexion philosophique dont on parle ici en toute simplicité, mais c'est vers là que la simplicité volontaire mène à la longue. C'est pas les trucs qu'on met en place qui sont nécessaires, mais le but, c'est pas les trucs. Le but, c'est la philosophie de vie. Et il y a un hors-série de Psychologie Magazine qui s'appelle Le titre, c'est « Foutez-vous la paix ». Puis j'aime beaucoup ça, c'est de Fabrice Midal. Puis une chose en philosophie et en simplicité volontaire, on dit que la simplicité, la philosophie, c'est une voie du milieu, c'est une voie équilibrée. Il faut pas aussi, quand on parle des recettes qui sont très bien, il faut juste équilibrer ça en fonction de notre rythme de personnel, en fonction de nos besoins personnels, en fonction de notre situation, puis en fonction aussi de ne pas devenir extrême. Puis c'est un peu ça qui, M. Midal, Foutez-vous la paix, veut nous présenter. Puis j'aime bien ça, il dit, je vais vous donner des exemples de titres de ces chapitres. Cessez de méditer, ne faites rien. La méditation, c'est très bien, mais... C'est l'idée derrière la méditation, c'est être dans le moment présent. Alors, ne faites rien, c'est ce que ça veut dire. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être sage, soyez enthousiaste. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vous réfréner, désirez. Cessez d'être passif, sachez attendre. Cessez d'être conscient, soyez présent. Cessez de vouloir être parfait. Accepter les intempéries, cesser de chercher à tout comprendre, découvrir le pouvoir de l'ignorance, cesser de rationaliser, laisser faire, cesser de vous comparer, soyez vous-même, cesser d'avoir honte de vous, soyez vulnérable, cesser de vous torturer, devenez votre meilleur ami, cesser de vouloir aimer, soyez bienveillant, cessez de discipliner vos enfants. La méditation n'est pas la ritaline. En tout cas, c'est ce que j'aime, c'est un peu une contrepartie à ce qu'on nous dit qu'on doit faire, qui n'est pas mauvais. Méditer, c'est excellent, mais et c'est, ce qu'il nous dit, c'est on peut aussi faire ça de façon simplicitaire, dans la simplicité, sans excès. Alors, je vais poursuivre aujourd'hui avec le livre dont on a parlé, La puissance des liens. Et en simplicité volontaire, ça aussi, c'est une chose qui... on parle beaucoup ces temps-ci de décroissance, puis pour comprendre un peu la différence entre la décroissance et la simplicité volontaire, je vois ça un peu comme je pourrais dire une gradation. Alors, quand on parle de simplicité volontaire, c'est beaucoup plus une démarche personnelle. Et d'ailleurs, les Français ont tendance à confondre simplicité volontaire et décroissance, qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas la même chose. Il y a une gradation. La simplicité volontaire, c'est tout simplement un mode de vie, oui, qui a un impact positif sur l'environnement. Quand on vit en simplicité, en simplicité, on a un impact positif. Mais c'est d'abord pour bien vivre qu'on applique la simplicité volontaire. Tandis que la décroissance a plus une connotation de... respecter les limites de la planète. Donc, l'emphase est plus mise sur protéger la planète. Alors, c'est pour ça que la simplicité volontaire, on a le mot volontaire, tandis que quand on tombe dans la décroissance, ça s'applique à tout le monde. Donc, il peut y avoir des involontaires là-dedans. Alors, on peut dire qu'il y a le gradient est en trois étapes, disons. Alors, la pratique individuelle, c'est la simplicité volontaire qui, la simplicité volontaire nous dit que pour bien vivre, entre autres, on doit tisser des liens, être près des gens. Alors, d'où la lecture du livre « La puissance des liens ». Puis, quand on parle de liens, d'entrer en contact avec les autres ou de s'impliquer, par exemple, dans un organisme, travailler avec d'autres personnes, ou œuvrer avec d'autres dans une cause quelconque, cette participation-là, c'est ça la transition. C'est ce qu'on appelle les initiatives de transition. Et si votre initiative a un impact sur la société pour la rendre plus écologique, bien là, à ce moment-là, votre activité, votre action devient une action dans le sens de la décroissance. Alors, je vous lis quelques extraits. Là. C'est un très beau livre, « La puissance des liens ». C'est un collectif d'auteurs. Il y a un texte de Christophe André, Abdennour Bidar, Fabienne Brugère, Boris Cyrulnik, Rebecca Shanklin, Mathieu Ricard, sous la direction d'Elios Koutsou et Caroline Le Cire. C'est un très bon livre. Puis « La simplicité volontaire », on en a beaucoup parlé, c'est aussi la raison pourquoi on simplifie nos vies, c'est pour justement mettre de la place dans nos vies pour créer des liens ou renforcer des liens. Alors, comprendre la multiplicité de ces liens dans un livre, de grands sages, des philosophes, des psychologues, des chercheurs sont réunis pour décrire les différents liens qui nous rapprochent de nos semblables. Lien des mots, de la voix, des odeurs, lien des sentiments, lien de l'altruisme, de l'entraide et du soin. Comment ces liens sont-ils la clé de notre équilibre? De quelle façon se tissent-ils tout au long de notre existence? Comment peut-on les entretenir? Je passe un peu plus loin avec le texte de M. Binard, Abdennour Bidar. Devenir un tisserand de ce monde. La philosophie commence toujours par clarifier le sens des mots. Ainsi, face au vaste sujet de la puissance des liens, une question s'impose, de quel lien, de quelle puissance parle-t-on? Trois liens se distinguent, qui sont vitaux, essentiels à notre vie et à l'humanité, parce qu'à travers le canal de ces liens passe notre nourriture essentielle, le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. C'est ce que j'appelle le triple lien. Nous vivons à ce point séparés, dissociés, divorcés de nous-mêmes, les uns des autres et du vivant, que nous avons désormais la plus importante, la plus urgente, la plus décisive des responsabilités collectives pour qu'émerge un futur pour l'humanité et en même temps pour une régénération de la Terre, devenir des tissants, tisserandes et des tisserands qui, ensemble, vont réparer ces liens brisés, endommagés et ainsi reconstituer le tissu déchiré du monde. Devenons ces tisserandes et tisserands qui chacun, chacune, à son échelle, à sa façon, selon le génie propre de nos personnalités et de nos différents collectifs, vont réparer de concert tout ce qui a été endommagé du lien à soi, du lien à l'autre et du lien à la nature. Comme on libère les eaux de rivière qui ne coulaient plus, comme on fait à nouveau circuler dans nos veines un sang qui ne passait plus. Nous traversons une situation de crise généralisée du lien, et cette crise du lien est la mère de toutes les crises. Comme autrefois, il existait une mère de toutes les batailles. Voilà pourquoi nous revenons aujourd'hui à la question du lien. Voilà pourquoi nous considérons que le combat pour renouer nos liens est essentiel. Munis de cette image du triple lien, fort de ce grand récit de la réparation du tissu déchiré du monde, empli par cette grande espérance et confiant en la puissance de nos liens retrouvés, nous pourrons, je l'espère, passer d'une civilisation de souffrance des liens à une civilisation heureuse et grandir en humanité, faire un saut d'humanisation, car à travers nos liens, c'est aussi l'énergie d'un éveil de conscience, d'un progrès d'être et d'esprit que nous recevons. Alors, un peu plus loin, il nous parle des séparations, les différentes séparations que nous avons. La séparation avec la nature, nous vivons séparés de la nature. C'est le premier lien déchiré que nous pouvons réparer dans le fil de la grande cause écologique. Mais actuellement, si nous cherchons à trouver ce lien avec la nature, nous le faisons souvent de façon intellectuelle, rationnelle. On nous dit de sauver la planète, de trier nos déchets, de veiller à notre empreinte carbone, de moins consommer, ce qui est sans doute nécessaire. Mais qu'en est-il de l'éveil de notre sensibilité? Sommes-nous capables à nouveau d'entendre ou de sentir le sanglot de la terre qui pleure, comme disait Thich Nhat Hanh? Sommes-nous capables de recevoir en nous la puissance créatrice de la nature? Sommes-nous capables de contempler la grande harmonie du cosmos, d'inscrire notre action dans la sienne comme l'instrumentiste s'accorde à l'orchestre et d'y participer consciemment en faisant notre part de sa grande œuvre de beauté, d'ordre, de justice et de paix? Alors, c'est quelques extraits là, de la puissance des liens que je vais revenir, on va y revenir à ce livre-là qui est fondamental à mon avis. Recréer nos liens, notamment avec la nature. On va parler aussi dans d'autres émissions subséquentes. On en a parlé la semaine dernière, nos liens avec les animaux. C'est ça, quand on parle de la sensibilité, c'est ce qui veut dire le texte. Puis c'est ça aussi que je veux dire par aller plus loin que des recettes. C'est la simplicité volontaire, c'est se recontacter, redevenir en lien. Bref. Alors, petite pause musicale, puis au retour, je poursuis avec un autre beau texte, là, le Taureau Yogi des Bois.
La fiauna scusa giù, l'indumana la chita lì.
alla fa il soldato setani, dopo setani ne rivali. Adai peri in tal porta, della Fiorenza veni dormi. Sua mamma dalla finestra, della Fiorenza ye papi. La Fiorenza le sta rubeia, dal bel moro sarà sì. Tantene la mia spadina, fu nel pugnal d'Arze. Mina vaga gire lo mondo, e la Fiorenza la troverè.
Bel galantare andà la guerra, per setan naturna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì.
Vai tre lavandere, callavavo so fardel, dime un po' vui lavandere, ma se c'ama sto castel alle del bel moro, del bel moro sarà sì, e setani che Fiorenza, e setani caiedri,
per galantare andà. La guerra per setanna turna qui, e la povera Fiorenza le stai senza marì.
E il bel moro alla finestra da lontan da vis venì, e il pensa bella Fiorenza dai un nom del vostro paese. Feie festa prunte la tavola, fei del pane del buon vin. Di a disnebbe la Fiorenza, di a disne cuma per me. Quan le stai nita la tavola, pie tumba l'anilin dal di. Culaneli dal vetu bave, ale culca spusami.
Bel galantale andà la guerra, per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Bel galantale andà la guerra, per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Bel galantale andà la guerra, per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì.
C'était Andrea Capezzuoli, El Moro Saraceno. C'était un accordéoniste italien qui était au Festival de l'accordéon à Montmagny à la fin de l'été dernier, que j'ai bien aimé. Puis l'accordéon était utilisé, là, comme j'en avais déjà parlé, comme un instrument de marche. Alors, on pourrait dire les marches de travailleurs, par exemple, les marches de contestation, se faisaient souvent avec un accordéon en avant qui dirigeait la marche. C'est un bel exemple de ce genre de pièce-là, de marche, qu'on pourrait dire. Alors, je vais poursuivre avec la lecture de Toro Yogi des Bois qu'on a déjà commencé il y a plusieurs semaines et qu'on lit... quand on n'a pas d'invité. Puis c'est le texte que je vais vous lire aujourd'hui, c'est fait un lien avec ce que je vous ai lu, l'extrait de Walden que je vous ai lu au début de l'émission sur le ménage. Frugalité, sobriété, simplicité ne sont pas des fins en soi, mais des paramètres indissociables pour tenter de sauvegarder une harmonie toujours instable avec le vivant, la nature, nos contemporains. Il faudrait ajouter avec soi-même. On peut ou peut-être commencer par là. Comment parviendrait-on à cet équilibre sans conjuguer attention, respect d'autrui, tempérance bienveillante, dans les interrelations permanentes entre l'intérieur et l'extérieur qui tissent notre existence. Un exemple pittoresque de l'approche holistique de Thoreau, qui ne sépare pas action et contemplation, concerne un sujet sensible, le ménage. Comment conserver un état centré, apaisé, ouvert et détendu dans une activité souvent considérée comme ingrate? L'interprétation donnée par notre ermite yogi rassemble dans une unité ouverte non seulement action et contemplation, mais aussi dedans et dehors, unité et multiplicité. Écoutons-le nous raconter cette expérience qui vaudrait bien une scène culte des Marx Brothers. Pendant cet agréable passe-temps, dans la lumière du petit matin, il dépose au dehors le dedans, tous les meubles, le matelas, les draps, les ustensiles de cuisine, tout cela atterrit dans les herbes. Sa table à trois pieds, avec les livres et la plume, trône entre les pins et les noyers. Tous ces objets du dedans semblaient heureux d'être dehors et ne rentraient pas volontiers. Tout se passe comme si l'euphorie prêtée à ces objets provenait de ce retour à leur milieu d'origine, la nature. Pas de produits lavants, le sable blanc de l'étang pour nettoyer le sol et la chaleur du soleil pour sécher le tout. Au milieu de ces branle-bas de combat, le fil continu de l'unité intérieure ne se brise pas. C'est à peine si ma méditation était interrompue. Cet art du ménage n'est-il pas aussi un yoga? De même, les moines bouddhistes zen considèrent l'art du ménage comme une méditation. Les maîtres cachemiriens du shivaïsme non-dualiste auraient été heureux de savoir que quelques 10 siècles plus tard, un yogi philosophe, lecteur de la Bhagavad Gita, pratiquerait ainsi le yoga véritable à leurs yeux en inscrivant la présence à soi-même dans la vie pratique. Cela était leur leitmotiv. Cette manière d'être nous concerne à plus d'un titre, à la fois pour le quotidien et pour la pratique du yoga ou de tout autre art de soi. Ce que nous montre Henri David, c'est que si la forme peut varier, c'est l'esprit qui importe. Ainsi, Abhinavagupta, le plus grand philosophe de l'Inde avec Shankara, souligne la valeur relative des exercices particuliers par rapport à la conscience. Les exercices que l'on pratique pour atteindre la libération n'ont de valeur qu'à l'usage de ceux qui se montrent incapables d'accéder directement à l'essence universelle. Comme ils sont le jouet de l'attraction et de l'aversion, il leur est impossible de plonger en l'essence. Ils s'imaginent incapables de cela et ont donc recours aux exercices et aux pratiques variées. Comment y parvenir? C'est là que les deux écoles divergent. Pour le yoga classique, l'ascèse est l'unique voie, mais pour le tantrika, dont Thoreau se rapproche, me semble-t-il, ce qu'il faut choisir comme moyen suprême pour un culte véritable, c'est essentiellement tout ce qui épanouit la conscience, le combat de félicité, si bien qu'une parfaite harmonie s'instaure en elle-même avec l'univers, jusqu'à pleinement la demeure resplendissante du Brahman. Les multiples sources d'émerveillement sont au sein de la nature, au gré de ses lectures, des sages indiens, chinois ou lors de rencontres avec les Indiens d'Amérique pourraient se ranger dans cette catégorie. Vécu à ce degré d'acuité, la sobriété devient plénitude dedans et dehors, contemplation et action s'égalisent. Thoreau fait partie de la forêt et la forêt fait partie de lui. Dans ce lieu sans égo, son propre moi est comme de l'or en fusion. Il entre dans la trame d'un écosystème de plus de 500 000 ans qui devient terrain d'exploration et de réflexion. Walden et son tapis de yoga, comme tant d'ascètes indiens, hindous, jaïns, bouddhistes, ils trouvent refuge dans la forêt pour rencontrer la vie, pour se rencontrer soi-même. On prend une petite pause musicale. Puis au retour, je poursuis avec Toro Yogi Dibois.
Thank you.
C'était Constance Demby. C'était un extrait là, du disque Novus Magnifica Through the Stargate. Alors, pour terminer l'émission, je vous lis encore quelques extraits du magnifique livre Le Taureau Yogi des Bois. Puis c'est ça qui est l'idée de la simplicité, c'est que Taureau nous rappelle qu'il faut voir la vie comme une expérience extraordinaire. Puis c'est à ça que mène éventuellement la simplicité, où on se débarrasse de ce qui nous distrait pour aller à l'essentiel. Oser l'aventure de la métamorphose sans laquelle aucune voie de réalisation n'a de sens. C'est le véritable ferment du yoga que Taureau a pleinement intégré dans sa vie. Il n'y a pas qu'une façon de vivre. Mais il y en a autant que de rayons qu'on peut tracer à partir d'un centre. Tout changement est un miracle à considérer. C'est un miracle qui arrive à chaque instant. Il transforme sa vie pour vivre une sobriété en plénitude. Frugalité a pour lui valeur de liberté. Point de privation imposée de l'extérieur, mais recherche de justesse, d'équilibre. On appelle en sanskrit cette qualité propre à tous les domaines, sattva, luminosité, légèreté céleste, transparence, bienveillance. Elle forme, avec la lourdeur opacité, tamas, et l'ardeur passion rajas, une triade fondamentale pour la tradition hindoue. Sobriété et liberté, deux faces de la même médaille. La sobriété nous entraîne à la liberté d'être soi et non asservie à des besoins factices créés par la société, la publicité et la consommation. Une rigueur libératrice, garante de santé spirituelle autant que physique. Quelle antique civilisation n'a pas célébré la sobriété? En Inde ancienne, hindous, jaïnes, bouddhistes, l'érigent en valeur suprême, la nomment tempérance. Cet ingrédient est en effet indispensable à une vie conforme au dharma, à l'harmonie universelle. Dans les textes sanscrits, le leitmotiv de la tempérance est exprimé par des locutions très diverses. Citons deux exemples évocateurs dans l'univers du yoga. Samyuj, tenir parfaitement ensemble, yuj étant la racine de yoga, et samatha ou samadva, équanimité, égalité d'âme. Le yoga est équanimité, tempérance. La Bhagavad Gita. Le bonheur de la sobriété crée un espace, pas d'encombrement, mais du vide, de la lumière, pour accueillir ce qui vient, ce qui va venir, nous advenir. C'est l'essence même de l'aventure. Alors, on termine l'émission sur ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne fin de semaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur